Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le lundi 26 janvier 2026, justement. Après une semaine sous le signe de Donald Trump, une semaine à guetter ses interventions, ses speeches et ses discours, il semblerait que les choses se calment. Pour le moment, le président semble vouloir laisser le champ libre à la Fed qui va prendre la main pour nous parler des taux. Pas sûr que ça va être passionnant, surtout qu'elle ne devrait rien faire. Mais on va pouvoir jouer aux devinettes pour savoir combien de temps les taux vont rester là où ils sont. Et de plus en plus, on est en train de se dire que Powell ne baissera plus les taux en tant que patron de la Fed. Et puis une fois que la Fed sera derrière nous, on attaquera les publications des Big Tech. Ça va nous occuper. Sur le papier, quand on regarde tout ce qui nous attend cette semaine, il y a presque de quoi trouver ça thérapeutique. C'est toujours extrêmement rassurant de pouvoir parler de choses concrètes comme les taux, l'économie et la macro. C'est pas qu'on maîtrise le sujet à 100%, mais il y a quelque chose de réconfortant à ne pas devoir compter sur les publications de Trump sur les réseaux sociaux pour prendre nos décisions d'investissement. Cette fois, on aura au moins du concret à se mettre sous la dent. Oui, cette semaine, la Fed se réunira et, suspense insoutenable, elle ne va rien faire. Les taux vont rester là où ils sont. Et ensuite, on pourra remettre le compte à rebours en place pour attendre le prochain FOMC meeting, pour voir si cette fois, il va se passer un truc. Mais là aussi, quand on voit la tronche de l'économie, il semble compliqué d'imaginer un patron de la Fed qui oserait baisser les taux dans cet environnement sans être terrifié de voir repartir l'inflation à la hausse. Ou alors un patron de la Fed qui serait sous influence du président. Mais ça sera pour après, le mois de mai. Mais après avoir déjà baissé les taux de 75 points de base à la fin de l'an dernier, Powell & Co. se tournent désormais les pouces en sifflotant. Le message est clair, on a déjà donné, maintenant on attend de voir ce qui va se passer. Le problème, c'est que plus la Fed attend, moins elle a de bonnes raisons de rebaisser. De rebaisser les taux, parce que si l'économie tient debout, expliquer une nouvelle baisse devient politiquement et économiquement compliqué. En gros, si ça va pas trop mal, pourquoi stimuler encore? Il y a encore quelques mois, tout le monde voyait des baisses rapides. Aujourd'hui, en étant très honnête, il n'est pas simple d'imaginer une baisse des taux dans les mois à venir. Surtout après la semaine qu'on vient de vivre, où pratiquement tout ce qui sort monte montre que tout va bien. Que l'emploi tiendrait encore le coup, j'utilise le conditionnel parce que pour être franc, j'y crois pas une seconde. La croissance est forte et l'inflation ne fait plus peur à personne, même si elle refuse de baisser en direction des 2%. Et si on gratte un peu sous la poussière, on arrive même à trouver des économistes qui pensent qu'il n'y aura pas de baisse des taux en 2026 et que la prochaine décision de la Fed pourrait même être une hausse, mais en 2027. Tout ça alors que Trump n'a toujours pas annoncé qui allait remplacer Jerome Powell dans 4 mois. Nous voici donc au début d'une semaine d'interrogations et de tergiversations. On sait que si Powell ne fait rien mercredi, Trump va lui tomber dessus avec la délicatesse d'un rhinocéros en furie. Mais en même temps, Powell sait que la Fed est un peu coincée dans une situation désagréable. Au-delà de Trump qui l'attend au coin de la rue avec une batte de baseball, et s'il baisse les taux trop tôt, il risque de relancer l'inflation. Mais s'il ne fait rien, il risque de freiner une économie qui manque déjà de carburant. Salaire mou, croissance sens molle. Et ce, même si Bessent nous a fait des envolées lyriques la semaine dernière pour nous expliquer que la croissance va exploser cette année. Bref, la Fed joue à pile ou face, mais elle sait que peu importe le côté de la pièce, elle perdra dans les deux cas. C'est littéralement pile je perds, face je perds aussi. En résumé, Powell ne devrait pas être au quiche, mais il ne devrait pas être deviche non plus. C'est une Fed en mode attente. Attente de quoi? On ne sait pas trop, bien sûr, mais pour l'instant, ce n'est clairement ni l'heure ni l'endroit pour baisser les taux. Le marché va donc devoir apprendre à composer avec. Lui qui a passé les 3 dernières années à monter en anticipation de la prochaine baisse des taux, il va devoir apprendre à vivre sans et pire, commencer à imaginer que le cycle de baisse des taux est peut-être terminé. Il va peut-être falloir trouver des autres raisons pour réussir à monter. Et ça tombe bien parce que cette semaine, on a une bonne petite avalanche de chiffres trimestriels qui va nous tomber dessus. On va espérer que ça aille dans la bonne direction parce que quand on voit la claque qu'Intel s'est prise vendredi dans le sillage de ses publications décevantes, il est clairement établi que le marché ne fera pas de prisonniers et que la moindre déception sera immédiatement violemment sanctionnée. Après, il peut aussi y avoir des bonnes nouvelles, des chiffres meilleurs que les attentes et des mots qui font plaisir de la part du management. Soyons optimistes. En tous les cas, une fois la semaine terminée, on y verra certainement plus clair au niveau de l'état de santé de l'économie et des sociétés qui la composent. On aura un point de vue du côté de l'aéronautique avec Boeing, du luxe avec LVMH et puis aussi des big names de la tech avec Microsoft, Meta et Apple. Sans oublier Tesla qui va nous parler de robots et de voitures électriques qui n'intéressent plus personne. Mais une chose est sûre, on va avoir de quoi se prendre la tête tout au long de la semaine et je ne vous cache pas que je suis soulagé rien qu'à l'idée d'avoir d'autres sujets à aborder que les discours à rallonge sans queue ni tête du président américain. Même si je suis parfaitement conscient que Trump peut venir donner des grands coups de pied dans l'échiquier de la finance à n'importe quel moment. D'ailleurs, Ne croyez pas que Trump a disparu des réseaux. La semaine dernière, les marchés ont été secoués par des menaces de droits de douane, puis par leur retrait tout aussi rapide. Puis samedi, Trump a de nouveau brandi la menace de droits de douane contre un allié proche en menaçant le Canada d'instaurer une nouvelle taxe de 100% s'il allait de l'avant avec un accord commercial avec la Chine. Heureusement, le Premier ministre canadien, Mark Carney, a immédiatement éteint l'incendie en déclarant hier que le Canada n'avait aucun projet d'accord de libre-échange avec la Chine. Ouf ! Mais on notera quand même qu'il y a un peu plus d'une semaine, Trump avait déclaré qu'il était d'accord pour que Mark Carney signe un accord commercial avec la Chine. Vous avez dit bipolaire ? Le Nikkei ce matin se prend 2% dans les dents et ce n'est pas parce que les Japonais ont mal dormi. Le yen s'est violemment renforcé face au dollar sur fond de rumeurs d'intervention coordonnée Japon-États-Unis pour sauver une devise en souffrance. Le problème, c'est que les exportateurs japonais pleurent, donc Tokyo vend et est en mode risk-off. Pendant ce temps-là, l'or explose à des niveaux à nouveau records, histoire de rappeler que quand les banques centrales et les gouvernements commencent à bricoler les devises, c'est jamais bon signe, et que dans le doute, autant se planquer dans le métal jaune ou dans le métal gris, parce que oui, l'argent explose aussi. Là, tout de suite, l'or est à 5104 et l'argent est à 107 $ et des poussières. Le pétrole se traite à 61,40 parce qu'on a peur que la situation en Iran dégénère, et le bitcoin est dans le coma à 87 700. Du côté obligataire, le rendement du 10 ans américain est à 4,22 et ça se calme un peu au niveau du Japon. La Chine ne fait rien et tout le monde est en mode attention danger pour entamer la semaine. Un danger qui peut et qui pourrait venir de n'importe où. Mais parlons un peu du Japon. C'était probablement l'événement macroéconomique le plus important de la semaine dernière et pourtant tout le monde s'en tape. Et je ne parle pas des droits de douane, ni même de l'or et de l'argent qui s'envolent et encore moins du Groenland. Non. Je parle du fait que pour la première fois depuis plus de 10 ans, la Fed de New York signale ouvertement une possible intervention sur le yen japonais. Et quelque part, ça, c'est énorme. On l'a vu la semaine dernière, les obligations du pays du soleil levant ont affiché des rendements énormes. Le 40 ans est passé au-dessus des 4% et la BOJ a décidé de ne rien faire, mais est plutôt prête à monter les taux qu'autre chose. Et le yen se déprécie quand même. Dans un monde normal, quand les rendements obligataires montent, la devise se renforce. Au Japon, c'est exactement l'inverse. C'est donc probablement le signe qu'il y a un truc qui déconne et que les investisseurs deviennent de plus en plus pessimistes sur l'économie japonaise. Et donc, comme on sait, la mauvaise santé économique du Japon est une très mauvaise nouvelle pour l'économie mondiale. Du coup, les décideurs américains commencent enfin à prendre ce risque au sérieux. Les commentaires de la Fed de New York suggèrent qu'ils sont désormais prêts à intervenir pour soutenir le yen. Pour soutenir une devise, une banque centrale utilise sa propre monnaie, elle crée ou mobilise des réserves, vend sa propre devise et utilise cet argent pour acheter la devise qu'elle veut défendre. En termes simples, les États-Unis vendraient des dollars pour acheter des yens. Et quand on voit la tronche du dollar, on a le très fort sentiment que nous sommes déjà en train d'intégrer l'hypothèse d'un yen fort et d'un dollar faible. Mais attention, attention, il ne faut pas croire que les Américains font ça par pur altruisme. Un dollar plus faible arrange aussi le gouvernement américain. Quand le dollar perd de la valeur, la dette future des États-Unis devient plus facile à gérer. L'État rembourse toujours le même nombre de dollars, mais ces dollars valent moins en termes réels. Un dollar plus faible rend également les exportations américaines plus compétitives, ce qui contribue à réduire le déficit commercial. Ainsi, soutenir le yen tout en laissant le dollar s'affaiblir, c'est pas une perte pour les États-Unis, c'est un choix de politique économique qui bénéficie aux deux camps. Pour l'instant, l'hypothétique intervention des Américains sur le yen démontre que l'on commence à s'inquiéter de la situation au Japon. L'explosion des rendements du Japon commence à faire peur et les Américains ne peuvent pas se permettre de laisser la situation pourrir, chose qui pourrait contaminer les USA dans le cas où les Japonais décidaient de sortir de la dette US. Les taux américains prendraient donc l'ascenseur et ça n'arrangerait personne, surtout pas en ce moment. On a donc une intervention prévue ou en cours pour soutenir le yen et éviter une escalade de la situation actuelle. Je ne suis pas en train de dire que ça va nous péter la figure, mais disons que quelque chose est en train de se passer et que cette chose est suffisamment inquiétante pour que les gros pontes de la Fed de New York commence à s'exciter. Surveillons donc le Japon et surveillons la suite des événements. Et les prochaines semaines pourraient être intéressantes au plus haut point. En résumé, il y a un problème japonais qui pourrait vite devenir un problème américain, puis mondial. Nous entamons donc une semaine passionnante où il y aura pas mal de choses à intégrer, à surveiller et à analyser. Pour le moment, tout le monde a l'air d'avoir envie de ne pas prendre trop de risques parce qu'on avance à l'aveugle. Mais le ciel devrait s'éclaircir au fur et à mesure de la semaine, histoire qu'on y voit plus clair. Pour l'instant, les futurs US sont dans le rouge et on attend l'IFO ce matin en Allemagne. Pour le reste, il va falloir être patient et prendre les choses au fur et à mesure. On sait que l'économie va moins mal que ce que l'on pensait et il va falloir gérer ça avec la Fed cette semaine, sans oublier que Trump est capable d'intervenir à n'importe quel moment. Passez une très belle journée et nous on se voit demain à la même heure pour commencer à poser la première pierre de cette dernière semaine du mois de janvier 2026. Soyez forts et soyez prudents. À demain.